discussion du soir. Les discussions du soir, Régis Debray.
Ce soir, je suis très intimidé. Je reçois un haut fonctionnaire, Pierre Connaissant, qui est depuis 30 ans sur le pont de la guerre et de la paix, qui a travaillé à la direction des affaires stratégiques et qui a écrit deux livres qui, pour moi, ont été importants. Mécanisme du chaos et La fabrication de l'ennemi. Bon, Pierre Connaissant, vous êtes un homme de l'art, je dirais, de l'art stratégique. Et au fond, j'aimerais savoir comment vous interprétez cette sorte de, on peut dire, de déstabilisation, de déconvenue, de surprise qu'ont eu les Occidentaux qui, après la chute de l'Union soviétique, nous avaient annoncé. Pas seulement une révolution dans les affaires militaires, ça c'est la stratégie américaine, mais vous avez annoncé un nouvel ordre international qui serait la paix, la coopération, etc. Et nous avons eu, Pierre Connaissant, nous avons eu la guerre après la chute de l'Union soviétique, des guerres. Comment interprétez-vous cette sorte de déconvenue?
Je crois que l'épisode de la disparition et de l'écroulement de l'URSS a deux aspects très différents et sur lesquels j'espère qu'on va revenir. C'est d'abord cette phrase d'Arbatov, qui était un conseiller diplomatique de Gorbatchev et qui avait dit aux Américains « Je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis ». Bon. Et ça, évidemment, le rôle que joue l'ennemi dans la construction des identités, c'est un sujet central. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a pensé effectivement que l'ordre international dont les étés, si vous voulez, les structures étaient posées par les deux grands, à partir du moment où l'un des deux grands disparaissait, ma foi, la paix universelle devait régner. Bon. En fait, on a vu réapparaître, à travers des crises comme la Yougoslavie, à travers des crises comme il y en a eu en Centrafrique, comme il y en a eu dans l'ancienne URSS, etc., le temps long. C'est-à-dire que le politique est habitué au temps court. Que dois-je faire pour résoudre cette crise, sachant que j'ai telle échéance électorale, sachant que j'ai telle contrainte, sachant que j'ai telle rencontre internationale à venir?
Et tout d'un coup, l'histoire revient dans la politique.
Ah, l'histoire revient complètement.
Et on a des dirigeants qui, contrairement à vous, qui êtes agrégé d'histoire, n'ont pas fait beaucoup d'histoire dans leurs études. Donc ils sont un peu décontenancés, j'imagine.
Absolument. Et il y a un débat extrêmement intéressant d'ailleurs aux États-Unis en ce moment où il y a venus du monde universitaire la demande que le futur président soit entouré d'une commission d'historiens, expliquant que les présidents élus ne connaissent strictement rien à l'histoire des pays dans lesquels ils sont parfois amenés à intervenir. Alors vous savez, il y avait cette célèbre phrase de Bush qui, à la suite d'une réunion préparatoire à l'invasion de l'Irak avec des experts, etc., au bout d'un certain temps, excédé, avait dit « mais je comprends rien à ce pays, je croyais qu'ils étaient tous musulmans ». Et quand on est dans cet état d'ignorance, et rappelez-vous nous-mêmes le comportement qu'on a eu avec la révolution islamique d'Iran, on ne savait pas ce qu'était le chiisme.
Absolument.
Et donc toute cet arrière-fond qui supposerait que le politique se donne le temps de la compréhension, en particulier pour décider si son intervention a un quelconque effet sur la crise, est quelque chose qui a totalement disparu des mécanismes des grandes démocraties.
Enfin tout de même, il a fallu, Pierre Connaissant, à l'Occident, reconstruire un ennemi, en refabriquer un après la chute de l'Union soviétique.
Oui, oui. Alors moi, je me suis retrouvé dans cette fonction de réflexion de l'ensemble de ces mécanismes stratégiques qui incluent les think tanks, les systèmes administratifs, les services de renseignement, la police, enfin tout, plus les intellectuels.
Parlez pas des intellectuels, c'est une catastrophe. Parlons de choses sérieuses.
Je vais vous les laisser de côté parce qu'on y reviendra. Si vous voulez, quand vous êtes dans un secteur d'activité qui a vocation à gérer l'ennemi et que vous n'avez plus d'ennemis, vous avez deux solutions. Soit vous perdez votre budget, soit vous êtes au chômage technique. Bon. Et donc, l'ensemble du mécanisme de ce que les Américains appellent les strategists, c'est-à-dire cet ensemble sociologique dont je vous parlais, a commencé à phosphorer pour retrouver de l'ennemi. Donc, vous avez eu des grandes pensées qui ont évidemment été diffusées à travers le monde et en particulier chez nous, présentées par les news, comme la nouvelle pensée américaine. Donc, vous avez eu le choc des civilisations, la fin de l'histoire, etc. À chaque fois présentées avec de longues interviews, comme c'était la nouvelle pensée de l'hyperpuissance dominante, ça devait donc être la pensée stratégique. Bon, malheureusement, il y a des gens qui lisent pas cette pensée stratégique, en particulier tous ceux qui étaient complètement impliqués dans les crises, que ce soit les Yougoslaves, que ce soit la Somalie, que ce soit le Rwanda ou que ce soit aujourd'hui l'Irak. Et donc on est dans cette situation étonnante où il faut produire de l'ennemi.
Alors, on en a produit, et puis il y a tout de même eu le 11 septembre, si j'ose dire, heureusement pour la construction de l'ennemi, mon cher connaissant.
Ah oui, oui, absolument, Régis.
Parce que là, c'était tout de même, j'allais dire, une catastrophe, mais un miracle aussi, tout de même, par certains côtés.
Ah, absolument, mon cher Régis, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on a eu cet extraordinaire tour de passe-passe. Un des chefs des services de renseignement américains qui a écrit ses mémoires raconte que la première fois qu'il a parlé d'Al-Qaïda et de Ben Laden à Condi Rice, vous savez, la conseillère de Bush, elle ouvrait des grands yeux parce qu'elle, elle était soviétologue. Donc son idée, c'était le rollback. Il faut repousser les Russes dans la frontière. Bon. Et puis, donc, comme vous le dites, il y a eu cette incroyable surprise, je ne vais pas dire divine surprise, mais du 11 septembre. C'est-à-dire que tout à coup, on se retrouvait une pensée stratégique qui devait s'organiser autour d'Al-Qaïda. Et le deuxième tour de passe-passe extraordinaire, c'est le discours de janvier 2002 de Bush, sur l'état de l'Union, dans lequel il explique que l'axe du mal, ce sont l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, alors qu'il n'y avait aucun Iranien, aucun Irakien, et a fortiori aucun Nord-Coréen dans les 19 terroristes, dans lesquels il y avait 15 Saoudiens.
Oui, mais comme l'Arabie Saoudite était un grand ami, il fallait sortir l'Arabie Saoudite du cadre. Mais nous y reviendrons à l'Arabie Saoudite avec votre dernier livre. Donc là commence la guerre globale contre le terrorisme. Alors c'est une chose un peu totalement, fallait dire, pas loufoque, mais tout de même baroque. Cette idée d'abord qu'il y a le terrorisme, il y a toujours eu du terrorisme dans le monde. C'est un mode d'action, on ne fait pas une guerre contre un mode d'activité qui est utilisé, je crois, depuis Samson dans la Bible, hein, quand il fait s'écrouler le temple sur...
Ah oui, c'est vrai, effectivement, on n'a pas pensé à lui comme père fondateur.
Ça fait 3000 morts dans la Bible, hein. Ce sera la jauge, le modèle un peu. Les Philistins perdent 3000 civils dans l'écroulement du temple. Mais enfin, revenons à notre... Alors, comment cette guerre globale, comment vous expliquez un peu, je dirais, cet emballement, cette folie, cette hubris, enfin, je ne sais pas comment dire. Comment... Vous voyez les choses depuis cette époque, quoi.
Je crois qu'il y a eu la conjonction, effectivement, de plusieurs événements différents. D'abord, ce sentiment de supériorité formidable qu'ont eu les Américains et les Européens derrière sur l'idée de la suprématie de leur armement par rapport à un monde soviétique qui était le grand ennemi, mais qui s'écroulait. Et donc, il y a toute une réflexion stratégique aux États-Unis sur ce qu'on a appelé la révolution dans les affaires militaires, qui disait qu'avec de la technologie, avec des armes bien conçues, on pouvait atteindre l'objectif précis qu'on visait, donc on pouvait limiter l'usage de la violence, etc.
Sans dommages collatéraux,
et zéro mort.
Précision, furtivité, etc.
Et zéro mort.
Et zéro mort.
On garantissait donc à l'opinion, ouais, après le massacre de la Somalie, hein, rappelez-vous, les 27 GIs tués par Aïdid, qu'on pouvait effectivement faire de l'intervention militaire saine, propre, clinique, si vous voulez. Bon. Donc ça, ce sentiment-là donnait l'espèce de blanc-seing, si vous voulez, qu'on a obtenu un peu partout pour se dire il faut y aller. Bon. Ensuite, on s'est retrouvé face à des crises, effectivement, comme la Yougoslavie, dans laquelle on ne pouvait pas ne pas intervenir. Donc on a agi dans une position d'interposition, mais en fait, en s'interposant entre des belligérants qui n'avaient pas l'intention de s'arrêter, en fait, on fragilisait nos propres troupes, puisqu'ils étaient entre les deux qui se tiraient dessus. Bon. Et donc, au fur et à mesure, si vous voulez, on est monté en puissance dans les modalités de l'intervention, parce qu'il fallait protéger nos propres troupes. Et puis, encore une fois, il y a d'autres intervenants, et on a inventé ce concept d'opération militaro-humanitaire. C'est-à-dire que vous avez bien la conjonction entre des intellectuels et des militaires, parce que le capital politique que représentait l'action humanitaire était tel que le politique a cherché à se l'approprier. Et rappelez-vous un célèbre ministre arrivant, débarquant le sac de riz en Somalie. Bon, le problème, c'est qu'il est arrivé un peu tard. C'est-à-dire les sacs étaient déjà débarqués, donc on a demandé à rembarquer des sacs pour qu'ils puissent se faire photographier.
Parce que, mon cher connaissant, en démocratie d'opinion, pour faire une guerre, il faut d'abord la vendre à l'opinion.
Ah oui, oui.
On peut dire un handicap de nos démocraties sondagières. C'est qu'il faut d'abord convaincre ce que les autocraties ou les régimes, disons, dictatoriaux peuvent s'éviter de faire. Donc c'est vrai que vous mentionnez les humanitaires qui ont joué le rôle de communicants fort bon. Enfin, c'est pas leur seul rôle, bien entendu.
Non, bien sûr.
Mais d'ailleurs, je lisais un discours de Sarkozy où il expliquait que pour lui, une intervention, ça doit se préparer par un bombardement, par des opérations d'aviateurs, et le bombardement, c'est l'information, enfin la communication, j'entends. Comment voyez-vous ça, vous, du, depuis le ministère de la Défense, quand vous voyez tous ces exhortations à intervenir au nom de l'humanité, de ne pas laisser massacrer les innocents, etc.
Le ministère de la Défense a une caractéristique, c'est que ce sont des gens obéissants. On reviendra sur leur liberté d'expression, parce que c'est une question, à mon avis, politiquement très importante. Donc ce sont des gens obéissants. On leur dit, vous avez une mission, il faut y aller, ils y vont. Bon. Donc c'est un outil extraordinaire entre les mains d'un homme politique. D'abord parce qu'il devient chef de guerre, que ça fait l'unité nationale, parce qu'on a des militaires qui, effectivement, sont d'excellente qualité.
C'est le seul bouton qui répond.
Absolument.
Parce que ça répond pas avec les entrepreneurs, il peut pas. Mais là, il appuie le bouton état-major, il y a de la réponse. Ouais. Et c'est suivi des faits. On comprend le penchant des politiciens.
Ah oui, il est beaucoup plus facile, par exemple, de réformer le ministère de la Défense que Bercy ou que le ministère de l'Agriculture. Donc, il faut quand même penser que c'est un ministère qui a cette caractéristique politique d'être quelque chose, obéissant, exécutant immédiatement et ne discutant pas. Et ça, c'est un problème grave. Parce qu'ils sont les gens qui sont au contact de la violence. Et de fait, leur manière de voir la crise, leur manière de l'intervention, même s'ils ont une certaine liberté de décision, finit par poser un certain nombre de questions de fond sur la façon dont le politique utilise la force militaire.
Et alors, on m'a dit, mais vous allez me dire si je me trompe, mon cher connaisseur, que les militaires sont beaucoup moins vats en guerre que les politiciens.
Ah ben, absolument.
Parce qu'ils savent ce dont ils parlent, ils ne réfléchissent pas en termes de séduction, d'opinion, d'emballement, d'enthousiasme, mais en termes opérationnels. Et donc, ils sont beaucoup plus, je dirais, circonspects.
Vous avez raison, mon cher Debray. Vous avez totalement raison. Je vais vous prendre un exemple. L'Afghanistan. Oui. Il y a un certain historique, je veux dire, pour quelqu'un qui s'est un tout petit peu intéressé à ce pays. La colonisation anglaise s'y est cassée les dents, au fin du 19e siècle. Les Russes, l'armée soviétique s'y est cassée les dents en plein milieu du 20e siècle. Et on y retourne. Et on y retourne, rappelez-vous, avec quelque chose qui était mis pratiquement comme un fanion de l'intervention, c'est la libération des femmes. Bon, quand on a mis un peu les pieds en Afghanistan, d'abord on se rend compte que c'est pas aussi simple qu'on l'imagine, que la structure de ce pays aurait nécessité une analyse politique bien profonde, et ensuite de se poser la question de savoir si une intervention militaire, aussi bienveillante soit-elle, pouvait effectivement aboutir au résultat souhaité. Vous savez, il y avait un chef de guerre afghan qui avait une phrase que j'ai toujours trouvée extrêmement intéressante pour expliquer la structure de la violence en Afghanistan. Il disait « On peut pas acheter un chef de guerre afghan ». Mais on peut le louer. Et vous avez toute la logique d'un conflit sur place. Le jour, il est votre allié, le lendemain, il peut très bien avoir changé de camp. Donc, si vous voulez, cette interrogation, les militaires sont au contact de cette forme de violence. Et donc, ce sont ceux qui sont les plus à même de dire « faisons très attention, c'est véritablement un espèce de lieu totalement putréfié dans lequel notre intervention n'a pas de légitimité. »
Oui, ayant évidemment à payer les pots cassés, ils ont plus de tact que les communicants. Qui peut faire des éditoriaux fulminants. Maintenant, là, vous évoquez une série de crises, Afghanistan, vous en avez parlé, l'Irak, la Syrie. Toutes ces crises ont un caractère en commun, c'est qu'aucune intervention militaire n'a permis de les résoudre, sinon de les aggraver. Alors, est-ce que ça n'interroge pas tout de même sur... Disons le rapport de l'affrontement militaire et de la stratégie proprement politique. Est-ce qu'on peut continuer à faire comme si la guerre n'était pas la continuation de la politique, et quand la politique est mauvaise, la guerre est perdue? C'est-à-dire, quelle conclusion vous tirez de tous ces échecs? Car curieusement, mon cher connaisseur, ce sont les Américains qui, depuis 30 ou 40 ans, nous imposent leur concept. Ils ont tous perdu les guerres qu'ils ont livrées, depuis 45, peut-être avec un bémol pour la Corée, et nous continuons de les suivre. Autrement dit, cette idée que la technologie militaire va résoudre les conflits nationaux, politiques, etc., quelle conclusion vous en tirez ?
Ben d'abord, il y a toujours eu dans la pensée stratégique cette espèce de tropisme qu'un concept technologique allait fournir l'arme absolue. Rappelez-vous la ligne Maginot, rappelez-vous le Vasa, enfin un tas d'exemples comme ça, la muraille de Chine. Enfin. Donc on a toujours pensé qu'à un moment on avait enfin trouvé l'arme absolue pour empêcher la guerre. Donc cette pensée technologique, évidemment, aux États-Unis est particulièrement prégnante avec toutes les révolutions de l'information, de l'informatique, enfin tout ce qu'on connaît. Mais à côté de ça, il manque dans la pensée stratégique américaine la dimension politique. C'est-à-dire que, évidemment, vous savez, les États-Unis ont cette caractéristique de n'avoir jamais connu la guerre sur leur sol. Bon, le dernier ancien combattant de la guerre de sécession, mon cher Debray, est quand même mort il y a un certain temps. Bon. Il y a eu plus de morts aux États-Unis par arme de poing au XXe siècle que dans les conflits. Bon. Donc la capacité du politique à dire « Tiens, la guerre est une solution qui va me donner un supplément d'âme dans les sondages » est une solution de facilité. Bon, nous, nous avons connu d'autres choses.
Et était une solution de facilité jusqu'au 11 septembre.
Je dirais qu'elle l'est devenue plus encore après le 11 septembre. Plus encore. Parce que Bush, au contraire, trouve son espèce d'embellie politique oui. avec la nécessité de réagir. Rappelez-vous cette phrase « Pourquoi nous déteste-t-on ?» Et la réponse était « Parce que nous sommes le bien et qu'ils sont le mal ». Donc on se renonçait à aucune analyse politique pour se dire « Plaçons-nous sur le terrain moral ».
Et il est toujours bon pour un politique de commencer une guerre. Il est beaucoup plus difficile de la finir.
Oui, mais comme en général on a changé d'équipe électorale, c'est l'avantage.
C'est l'avantage, oui, effectivement. Alors, Pierre Connaissant, quelle conclusion tirer de cette, je dirais, de cette inefficacité militaire?
Alors, je crois qu'effectivement, mon cher Régis Debray, il y a quelque chose auquel on n'a pas pensé en termes militaires, c'est que, en contrepoint de cette école américaine dont je vous parlais, celle de la révolution des affaires militaires, qui insiste sur la technologie, la précision, l'absence de mort occidentale, etc., est née une école stratégique qui ne s'est jamais formalisée, qui est en partie formalisée d'ailleurs dans un livre qui s'appelle « La gestion de la barbarie », qui est sorti des sphères des intellectuels d'Al-Qaïda et puis ensuite de Daesh, dans lesquels tous les contre-concepts ont été inventés. Zéro mort d'occidental sur le théâtre d'opération, mais des morts dans les attentats terroristes. La capacité à frapper précisément un objectif chez vous, c'est pour nous la possibilité de frapper n'importe quel objectif chez vous, mais sur le territoire national. La transparence du champ de bataille voulu avec toutes les technologies de l'information, c'est bien à condition qu'il y ait un champ de bataille. Si on vous refuse le conflit et qu'on fait le conflit sur votre territoire, vous êtes totalement perdu.
Autrement dit, il retourne le gant complètement.
Il retourne le gant complètement. Et c'est vrai qu'on n'a pas... Ce n'est pas une question qu'on peut gérer avec des moyens militaires. On ne va pas militariser toutes les stations de métro de Paris et tous les lieux de réunion. Et ça, c'est la véritable révolution stratégique qui n'est pas aujourd'hui prise en compte et qui devrait amener le politique à se dire « Je ne suis pas si sûr que dans la décennie 80, comme dans la décennie 90 oui, que les moyens militaires me le permettront d'emporter. »
Ce que, mon cher Connaissant, Obama a fait apparemment, cette petite réflexion sur... À quoi ça sert de s'engager pour s'enliser, sinon aggraver le conflit? Peut-être que M. Hollande n'a pas eu n'ayant pas eu la même expérience, n'a pas eu la même réflexion. Mais il y a tout de même, moi, quelque chose qui m'amuse comme une ironie de l'histoire. Mon cher Connaissant, les Américains inventent la bombe atomique, qui est un égalisateur de puissance, je dirais, entre les riches et finalement l'Union soviétique, donc égalisateur de puissance. Ils inventent Internet, supériorité formidable, et puis voilà qu'Internet devient un égalisateur de puissance entre le faible et le fort.
Ouais, hein.
Donc à chaque fois, on peut dire que l'invention technique se retourne.
Oui,
l'invention technique est à double usage. Au départ, on dit c'est formidable, c'est le moyen... un peu de me sortir de là et de casser la gueule à tous mes amis. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que l'ennemi peut utiliser le même moyen pour se retourner
absolument.
Contre vous.
Absolument. Et en particulier, alors vous avez tout à fait raison, mon cher Régis Debray, sur le fait que Internet, pendant un temps, a été analysé dans une espèce d'euphorie intellectuelle comme un des éléments du soft power. Effectivement, on a un soft power américain qui a son efficacité, que tout le monde connaît, qui amène à l'américanisation de nos modes de vie, de nos pratiques, etc. Mais l'utilisation qu'a fait Internet de Daesh est extraordinaire, parce qu'en termes de stratégie, ils font tout à la fois de la communication globale sur Internet, des vidéos, des journaux en français, dans 11 langues, vous vous rendez compte. C'est-à-dire c'est un acteur international. Et en même temps, de la stratégie de propagande locale, c'est-à-dire qu'ils font du global et du local. Local, parce que par le web 2.0, à partir du moment où un élément est identifié avec les mêmes critères que ceux qu'utilise la NSA pour essayer d'identifier les terroristes, ils essayent d'identifier eux-mêmes le type qu'il faut approcher, par une espèce de chasse en meute pour l'amener progressivement soit à se convertir, soit à partir en Syrie, en Irak. Donc l'outil a été renversé lui aussi dans la pensée stratégique opposée. Mmh. Et donc tant qu'on n'est pas encore une fois sur le politique comme noyau de la décision, on est sur quelque chose qui va être l'idée que l'outil va définir la politique.
Vous avez parlé, mon cher Pierre, de Daesh là, et de son intelligence... J'allais dire de ses capacités intellectuelles. Daesh, c'est en Syrie. Pourquoi la Syrie nous passionne tellement et pas le Congo et pas le Yémen.
Oui, pas le Congo.
Mais pas le Congo démocratique, c'est bien ce que je dis, où des centaines de milliers de gens meurent. Autrement dit, comment expliquez-vous cette sorte de focalisation d'aujourd'hui sur la Syrie?
Je crois que l'exemple du Congo est particulièrement intéressant. C'est le conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 2,5 millions de morts, à peu près 13 000 ou 14 000 enfants qui ont été enlevés pour devenir esclaves sexuels, porteurs, combattants, etc. Bon. Or, ce n'est pas la première page des médias. Alors ça, c'est une question qui m'a évidemment interpellé, parce que pourquoi la Syrie plutôt que le Congo, alors qu'effectivement, en termes de strictement humain, si vous voulez. Et si vous voulez, aujourd'hui, on est dans un contexte où il n'y a plus de menace stratégique. On n'a plus les chars soviétiques à 400 km de Strasbourg, comme c'était le cas à l'époque de l'ère Suez.
Oui, on n'a plus de crise, comme la crise d'octobre 62, susceptible de déboucher sur une guerre mondiale.
On n'a plus, effectivement, ce scénario, puis qui surtout est une menace vitale pour nous. Bon. Donc, le choix des crises qu'on va éventuellement traiter sont examinés par des observateurs qui peuvent être les stratégistes, mais qui peuvent être les humanitaires, les intellectuels, j'y reviens, les diasporas qui vont dire cette crise-là est importante, etc. Et donc, les déterminants de la politique extérieure sont beaucoup plus devenus intérieurs qu'extérieurs. Et encore une fois, ça fragilise l'analyse politique. Je me souviens d'un article extraordinaire. J'ai envoyé un jour un article à un grand quotidien du soir qu'on m'a retourné après l'avoir accepté en disant « il n'est pas assez opinionné ». Je me suis dit « ciel, qu'est-ce que cela veut-il dire ?» Et là, on m'a dit « mais vous avez cité des faits, c'est pas vraiment une opinion, etc. » Je pensais que c'était la bonne démarche. Et alors effectivement, m'est revenu à l'idée un article qu'a écrit un grand intellectuel français à la grande chemise blanche ouverte qui nous avait emmenés en Libye, qui sur un article qui s'appelait « Nous sommes tous des Ukrainiens ». Et effectivement, j'ai dit au type du Monde, ça c'est une véritable opinion, parce qu'il ne dit pas si c'est des Ukrainiens russophones ou ukrainophones. Donc lui, il n'y connaît rien, donc c'est une opinion pure. Il m'a dit non, non, ce n'est pas tout à fait ça. Et c'est ça le sujet.
Mais c'était tout à fait ça, bien sûr.
Qui est aujourd'hui en mesure de dire à l'opinion, c'est la bonne crise? Alors, je reviens à votre question sur la Syrie. Il est évident que la Syrie, c'est une mythologie qui vient dans notre histoire. C'est l'histoire du mandat français, c'est les croisades, c'est tout ça. Bon, on va expliquer. Et puis la sécurité d'Israël, qui est une composante régulière, je reviens, si vous voulez, à la conjonction de l'humanitaire, de l'intellectuel et de la diaspora.
Et surtout de l'extérieur et de l'intérieur. Parce que, mon cher connaissant, ce que vous dites, ça rejoint un peu Alexis de Tocqueville. Il faut lire ce monsieur, parce que quand il décrit de la démocratie en Amérique, hein, dans les années 1830-1840, il décrit la démocratie française, puisque la démocratie française est devenue une projection de la démocratie américaine. Avec quelques bémols. Et il dit, dans ce type de régime, les affaires du dehors ne sont jamais que le prolongement des affaires du dedans. On ne réagit au dehors qu'en fonction du dedans. Et ça me semble être aujourd'hui de plus en plus vrai, et terriblement vrai, parce que qu'est-ce que c'est que le dedans? C'est la communication. Qu'est-ce que c'est que la communication? Bon, c'est d'abord des groupes industriels, et puis c'est d'abord une petite caste de gens qui sont des intervenants professionnels, et qui, comme vous le dites, n'ont pas... ont rarement une culture internationale. Donc on voit que des décideurs peuvent être, subordonnés à des influenceurs qui n'y connaissent pratiquement rien. Et ça, en tant que stratège, vous, responsable tout de même de politique militaire, ça doit vous inquiéter, non? Cette sorte de perméabilité entre le monde du communicant, radio, télévision, presse, et le monde de la... décision militaire.
Oui, vous avez raison.
Vous me le dites d'ailleurs avec votre article, là, qui était un article factuel, mais attendez, c'est trop factuel. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de morale, il n'y a pas...
Absolument. Il y a un bouquin très intéressant, malheureusement j'ai oublié le nom de l'auteur, qui parle de la France en disant « ce pays qui aime tant les idées ». Et c'est vrai que nous avons cette caractéristique de beaucoup plus parler des idées, mon cher Régis, que de parler des faits. Et donc... les communicants sont des fabricants d'idées. Rappelez-vous ce concept d'opération militaro-humanitaire. C'est une formidable coup médiatique. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le ministère de la Défense a été obligé de s'installer dans la communication lui aussi, mais pour justifier a posteriori ce qu'il fait, pas pour anticiper. Et donc, il y a un vide politique dans la communication.
Discussion du soir. Régis Debray discute pied à pied avec Pierre Connaissant. Oui, on parlait de la Syrie. La Syrie, c'est peut-être quatre guerres en une, mais donc une situation évidemment compliquée, à laquelle on a voulu, nous, en France, apporter des réponses simples. Une réponse simple a été, par exemple, l'idée d'un bombardement sur les dépôts d'armes chimiques du régime syrien. Comment vous, de votre point de vue, c'est-à-dire à la fois réaliste, informé, mais qui réfléchit, comment vous interprétez cette attitude gouvernementale envers la Syrie?
Je crois que vous avez mis le doigt sur un des aspects essentiels aujourd'hui. Le gouvernant décide en fonction de son opinion publique. À aucun moment, il ne cherche à savoir quelle est la posture de l'autre, sa légitimité politique, les raisons de sa révolte, les raisons de sa violence, etc., etc. Rappelez-vous, c'est les guerres de décolonisation, hein, c'est le symbole peut-être le plus évident dans l'histoire. Et là, à aucun moment, si ce n'est parce que les médias concernés considéraient qu'un massacre était en cours, etc., à aucun moment, il y a eu le recul nécessaire pour se dire, mais finalement, quelle est la nature de cette crise ? Quand vous dites qu'il y a quatre guerres en une, c'est vrai qu'on s'est aperçu au fur et à mesure qu'il y avait quatre guerres en une. On a la guerre des Turcs qui sont surtout préoccupés par les Kurdes et qui préfèrent bombarder les Kurdes que Daesh, ou éventuellement s'appuyer sur Daesh contre les Kurdes. Vous avez la guerre des sunnites contre les chiites, parce que Daesh a réussi à capter complètement cette image de défenseur de la minorité sunnite en Irak et de la majorité sunnite en Syrie pour devenir le véritable défenseur des sunnites que l'Arabie saoudite prétendait défendre. Donc c'est une guerre contre les chiites qui traverse tout le Moyen-Orient, depuis effectivement le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Yémen, le Bahreïn et j'arrête. Donc on est dans une guerre de religion. Guerre de religion, on a une petite expérience en la matière. Le bout du compte, c'est qu'on découvre ce que c'est que la tolérance.
Ça demande du temps. Hein, ça demande du temps. Ça nous a demandé, nous, au XVIe siècle, presque 60-70 ans.
Oui, mais c'est une expérience dont on ne peut pas faire l'économie, surtout quand on est dans une posture religieuse. Ouais. Et donc, notre légitimité à intervenir est nulle. Parce qu'effectivement, nous sommes les ennemis des deux. Enfin, regardés comme les ennemis des deux. Bon. Ensuite, vous avez la guerre de Assad contre tout le monde. Et à la fin, vous avez les chevaliers blancs occidentaux qui arrivent pour vous dire « Attendez, nous allons mettre un peu d'ordre là-dedans ». Mais ces chevaliers blancs occidentaux, à un certain moment, ont considéré que c'était Assad l'ennemi principal. Donc, ils ont légitimé le départ de nos jeunes vers la Syrie pour aller défendre le peuple syrien.
On parlait d'une guerre d'Espagne dans laquelle il était urgent de rejoindre les brigades internationales de notre époque, c'est-à-dire de rejoindre l'opposition à Assad, qui a dû faire partir un certain nombre de jeunes idéalistes qui ne s'attendaient peut-être pas à leur retour à être mis en tôle.
C'est-à-dire qu'à cette époque-là, effectivement, je crois que c'est un bon argumentaire pour les avocats, c'est de dire qu'à cette époque-là, nous étions complètement dans la ligne du gouvernement français. Et puis ensuite, il y a eu la découverte que Daesh pouvait être un ennemi encore pire que Assad, et donc il fallait peut-être changer nos batteries, c'est le cas de le dire. Mais on est bien dans cette situation aujourd'hui, et c'est une caractéristique intéressante, où la sensibilité interne à ces crises internationales, du fait des diasporas, du fait de la mixtion, si vous voulez, des différentes cultures sur un même espace comme le nôtre, provoque ce genre de départ. Alors j'ai discuté avec un journaliste musulman qui m'a dit une idée assez intéressante. Il m'a dit, on devrait adopter une loi interdisant à tout jeune Français de partir se battre dans une zone couverte par des résolutions de l'ONU. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que d'abord, ça légitime juridiquement le fait qu'on interdise ou qu'on empêche des jeunes de partir.
Je comprends pas bien cette histoire.
Cette histoire est très simple. C'est que vous avez des conventions bilatérales, par exemple, pour faire son service pour des jeunes Français de religion juive dans le Sahel. Mais quand ils vont intervenir dans les territoires occupés, des Français de culture musulmane disent pourquoi est-ce légitime, puisque effectivement il y a des conventions, il y a des résolutions de l'ONU. Donc on veut interdire à des jeunes musulmans de partir se battre avec Daesh, et en fait la base juridique devrait être le parallèle.
Oui,
c'est une idée qui effectivement est choquante pour beaucoup, mais qui est fondamentalement légitime. On y arrivera un jour.
Oui. Non, je comprends bien. Et donc. Comment croyez-vous qu'on peut se sortir de cet imbroglio? Quel peut être le rôle des Russes dans cette affaire? Moi, je vais vous poser une question, mon cher Connaissant, qui est au-delà de tout ça. quand est-ce que la France peut récupérer une pensée stratégique autonome qui pourrait donner une cohérence à ses interventions militaires ici et là? Quand est-ce que nous pourrions nous décrocher de la locomotive américaine dont on a vu qu'elle ne mène nulle part? Enfin, si j'en juge par les résultats de leurs interventions. Est-ce que vous croyez encore possible que la France, malgré qu'elle ait rejoint les commandements intégrés de l'OTAN, puisse encore penser par elle-même ces divers conflits en fonction de ses intérêts propres?
Oui, oui, bien sûr. Entendu. Non, mais la question est d'autant plus légitime, effectivement, que on a vu arriver en une dizaine, quinzaine d'années depuis Sarkozy, grosso modo, une vague de néoconservateurs avec 15 ans de retard. C'est-à-dire, c'est très étonnant, alors que les Américains eux-mêmes revenaient en arrière sur cette espèce de mode de gestion du monde par la violence, on avait arrivé en France des gens qui, effectivement, ont accusé Obama d'être un faible, ce qui était quand même
très
étonnant.
Oui, mais c'est toujours, vous savez, c'est toujours le décalage entre la métropole et la colonie. Hein. La colonie est toujours du retard sur les modes de la métropole, le temps qu'elle vienne, même
oui,
si ça
en
va
général,
plus vite aujourd'hui.
La colonie produit au bout d'un certain temps ses propres élites avec ses propres concepts. Donc, effectivement...
C'est
ce qu'on attend.
C'est ce qu'on souhaite.
Parce que, regardez, le problème de la défense, l'Europe de la défense ou la défense de l'Europe... Bon. Les Français veulent une Europe de la défense, ce qui n'est pas la défense de l'Europe. Pour beaucoup de pays satellites de l'URSS, la défense de l'Europe, c'est l'OTAN. Bon. Donc entre l'Europe de la défense et la défense de l'Europe, vous comprenez bien que ces nuances de langage français, qui ne sont pas compréhensibles en anglais, sont en fait renvoient à des images très importantes. Autre remarque, la France a considéré que le nucléaire était une garantie de sécurité de l'Europe. Il y a des tas de pays qui considèrent que le nucléaire est une menace, parce que le risque d'utilisation nucléaire provoquerait la fin de l'humanité. Et donc, on est sur des concepts où on essaye, nous, Français, de faire comprendre aux autres que ce sont nos concepts qui sont les bons, et les autres essayent de nous faire comprendre que ce n'est pas tout à fait vrai. Un de nos concepts, justement, dont on voit l'application en Syrie aujourd'hui, c'est l'idée que la projection de force sur un théâtre extérieur nous garantit ici. Or, on découvre, depuis la vague d'attentats terroristes, que ça ne nous protège pas, ça nous expose, au contraire. Donc, vous voyez, il y a toute une réflexion qu'il faut effectivement mener, mais avec une espèce de retour sur les limites de nos outils militaires et la limite de nos intérêts et non pas de nos principes.
Oui, parce que le seul principe dans les relations internationales, c'est l'intérêt, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'intérêt national, en l'occurrence, tel qu'on le revoit aujourd'hui apparaître avec ce qu'on appelle de nouveau le concert des nations. Mais puisque vous avez fort bien analysé ce que c'est que la fabrication de l'ennemi, il y a tout de même des moments où l'ennemi est déconstruit, c'est-à-dire que les rôles ne sont pas distribués une fois pour toutes et l'ennemi d'hier peut devenir l'ami d'aujourd'hui. Au fond, ce qu'on a vu avec la France et l'Allemagne, peut-être qu'on commence de le voir avec l'Iran, je ne sais pas. Alors, effectivement, cette idée qu'il faut un ennemi pour exister, c'est une idée banale. Hein. Je veux dire que le moi se pose en s'opposant au non-moi. C'est ce que disait Mène de Biran. On a tous, en philosophie, appris ça. Il n'y a pas de nous là où il n'y a pas de eux, etc. Mais c'est pas gelé, tout ça. Le nous peut changer son eux, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez envisageable que nous, tout d'un coup, les Américains sont en train de le faire avec l'Iran, et que tout d'un coup, un ami puisse devenir un adversaire, et un adversaire, un ami? Je ne vous cache pas, peut-être parce que j'ai feuilleté votre dernier livre, Docteur Saoud et Monsieur Djihad, La diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, préface d'Hubert Védrine, je ne vous cache pas que je pense un peu à l'Arabie Saoudite qui est, comme chacun sait, un bon client, si j'ose dire, et un bon ami. Mais peut-être qu'un jour, on va s'apercevoir que c'est pas, comme dit l'autre, la solution, c'est le problème.
Je crois que, mon cher Régis, vous avez effectivement une remarque de fond qui est le problème de la déconstruction de l'ennemi. Ça, c'est la phase, à mon avis, politiquement la plus importante de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est la réconciliation franco-allemande. Rappelez-vous qu'on utilisait le terme d'ennemi héréditaire, c'est-à-dire qu'on devait hériter de ses parents l'idée que l'Allemagne devait être combattue. Or, le génie de deux hommes d'État qui ont été De Gaulle et Adenauer a été de dire « c'est fini, on arrête le match, on se réconcilie ».
Avec un petit mensonge, si vous me permettez, connaissant. C'est qu'on ne met plus sur les plaques commémoratives de la résistance, on ne met plus « victime des Allemands ou de l'armée allemande », on dit « victime des nazis ».
Oui,
on remplace « allemand » par « nazi ».
Ouais.
c'est-à-dire petite minorité se serait emparée de l'Allemagne, mais c'était des méchants. Ce sont les petits mensonges nécessaires, je pense, petits mensonges tactiques nécessaires pour les choses essentielles.
Oui, mais ce que vous signalez est d'autant plus vrai que la réconciliation n'a été possible que parce que les Allemands ont fait ce formidable examen d'autocritique.
Oui.
Que aucun autre pays n'a jamais fait. Les Japonais n'ont jamais procédé à cet examen, réexamen critique, qui aurait permis une réconciliation avec la Corée, avec la Chine, etc. Bon. Et donc, ce génie de ces deux hommes politiques ont fait ce traité de l'Élysée, qui essaye d'être imité à peu près partout. L'Argentine et le Brésil, vous connaissez mieux la situation que moi, mais l'Algérie et le Maroc n'ont jamais réussi.
Ouais.
Et pourtant, Dieu sait qu'on a créé l'UMA, l'unité du Maghreb arabe, avec une frontière fermée depuis 25 ans. C'est quand même une création originale. Donc ça, ce phénomène-là est un phénomène politiquement possible. L'autre question que vous évoquez, c'est effectivement comment est-ce qu'on construit l'ennemi. Là, on revient sur la question de départ, avec le cas de l'Arabie Saoudite. Bon. Moi, je vous avoue que j'étais un peu frappé qu'on combatte Daesh parce qu'il opprime les femmes, il coupe les mains, il interdit les autres religions, et il décapite pour défendre l'Arabie Saoudite, qui décapite, qui coupe les mains des voleurs, qui interdit les autres religions et qui opprime les femmes. Mais peut-être y a-t-il des nuances stratégiques que je ne comprends pas.
L'un a plus d'argent que l'autre, apparemment.
Oui, mais il y a un intellectuel algérien qui s'appelle Kamel Daoud, qui a écrit un article extrêmement intéressant, qui dit « L'Arabie Saoudite, c'est Daesh qui a réussi. » Ça voudrait dire que si Daesh demain se territorialisait et qu'il avait l'argent du pétrole, il deviendrait une Arabie Saoudite respectable. Non, moi, mon livre est parti d'une idée et d'un constat assez étonnant, c'est que il n'y avait pas d'études, même anglaises, anglo-saxonnes, sur la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Or, pour un abruti comme moi, je trouve que le salafisme et le wahhabisme se ressemblent, si vous voulez, comme c'est dans le jeu des sept erreurs, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments d'identité. Un théologien musulman m'a défini le wahhabisme en me disant, vous savez, c'est la pratique la plus sectaire, la plus raciste, la plus antisémite, la plus homophobe, la plus misogyne de l'islam. Bon, finalement, je me suis donc placé sur le terrain des idées politiques. J'ai pas lu les théologiens. Je crois pas que ça m'apporterait grand-chose. Et de fait...
Vous n'êtes pas placé non plus, mon cher connaisseur, sur le terrain de la balance commerciale.
C'est effectivement le cas. Alors, moi, j'ai travaillé un temps, si vous voulez, dans les exportations d'armement, ce qui m'a donné l'occasion d'aller en Arabie Saoudite. Et effectivement, j'avais toujours cette promesse des 10 milliards d'euros qui ne cessait de se décaler, puisqu'effectivement, il y avait toujours en instance 10 milliards de contrats, de signatures de contrats qui devaient...
Quelques-uns se sont tout de même concrétisés.
Oui, mais le chiffre de 10 milliards en prévision est toujours resté le même. C'est ce qu'on appelle la prévision glissante, si vous voulez. Et donc... Ce qui m'a le plus frappé quand j'ai étudié le sujet, c'est que depuis sa naissance, ce régime saoudien a inclus la diplomatie religieuse dans son action. Parce que ce régime repose sur deux jambes, qui sont la dynastie des Saouds, mais qui sont cette hiérarchie religieuse wahhabite, qui s'est fondamentalement structurée, parce que le grand moufti d'Arabie Saoudite, c'est théoriquement un Al-Sheikh, c'est-à-dire un descendant de Abd al-Wahhab, exactement comme les Saouds doivent être des Saouds. Et donc cette légitimité où il y a eu quelques bisbilles, il y a eu quelques moments où ils ne se sont pas entendus entre eux, mais à chaque fois que le régime saoudien, pour se défendre, a appelé les mécréants, les occidentaux, à chaque fois, pour se calmer, il a obtenu l'aval, le feu vert des oulémas, en échange de plus de pouvoir, plus d'argent, plus de moyens. Et donc, on ne peut pas imaginer que l'Arabie saoudite puisse changer sa diplomatie religieuse.
C'est la structure même du régime. Est-ce que cette diplomatie religieuse est dans les mains... Question posée aux spécialistes que vous êtes, connaissez ça, est dans les mains du pouvoir saoudien. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de parallélisme, de décentralisation, avec toutes sortes de fondations privées qui volent de leurs propres ailes? Non, question que je me pose, quoi.
Non, mais
ou est-ce qu'il y a une telle symbiose entre le politique et le théologique qu'on peut parler de l'Arabie Saoudite comme d'une entité unique, voilà.
Mais mon cher Régis, vous savez, je crois que le système saoudien a créé un concept très original de soft power, justement. Vous savez, on parle beaucoup du soft power américain, du soft power russe, tout ce qu'on veut, mais le soft power saoudien est très original. C'est un espèce de mélange de système américain, où vous avez des acteurs publics, des acteurs privés qui interviennent dans le même sens. Vous avez des universités qui invitent des stagiaires, etc. Et puis vous avez un concept soviétique. C'est-à-dire vous avez l'idéologie totalitaire qui vous forment des commissaires politiques, qui viennent se former à l'université islamique de Médine. Et je fais dans mon livre une liste, on estime qu'en gros, ils en ont formé entre 25 000 et 30 000, si vous voulez, sur une trentaine d'années. C'est-à-dire que c'est une grosse université, Lumumba, si on doit la comparer avec le système soviétique. J'estime que c'est 7 à 8 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 3-4 fois plus que ce que l'URSS a fait dans sa plus belle époque, en termes de propagande. Et que le dispositif de ces gens qui ensuite sont obligés de repartir chez eux, non pas, ils ne peuvent pas rester saoudiens. La solidarité islamique ne va pas jusqu'à leur accorder de passeport.
Oui, oui, il y a certainement un internationalisme wahhabite qui pourrait concurrencer l'ex-internationalisme soviétique. J'ai tout de même plus de respect pour l'université Lumumba que pour celle dont vous parlez. Mais en tout cas, je crois que la lecture de votre livre permettra à beaucoup de nos auditeurs de se poser les bonnes questions sur, je dirais, les incohérences à laquelle peuvent conduire nos ignorances en matière de guerre et de paix, en matière internationale. Merci, mon cher connaisseur.
Merci à vous, Régis Debray.
Discussion du soir, Pierre Conessa, Cédric Chatelus et Laurence Genepin. Anne-Pascale Devigne et Régis Debray.